بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Chers frères en islam, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité d'être présent ce soir pour étudier quelques versets de la sourate. De quelle sourate? Quelle sourate? Quelle sourate? Al-Muzzammil. La sourate Al-Muzzammil. La sourate Al-Muzzammil est une sourate makkiya, c'est-à-dire qui a été révélée à Makkah, donc dans un contexte où la pratique de la religion était très, très compliquée, très difficile. La dernière fois, on avait vu le verset 19 et 20, où Allah Azza wa Jal rappelle que cette sourate, ces versets, c'est un rappel. Et on a vu que le rappel est essentiel pour l'homme. Les versets que nous allons lire ce soir nous rappellent la clémence d'Allah Azza wa Jal dans ce qu'il a légiféré. Je vais juste rappeler les principes de précaution concernant nos programmes. Les distances, mashallah, tout le monde les respecte. Je souhaiterais que chaque personne porte son masque correctement avec le nez couvert. Ce serait beaucoup mieux. Lana wa lakum wa lil jami'a insha'Allah. Allah ybarik fik wa yahfadukum wa yahfaduna jami'an wa yashfi mardana wa mardal muslimin. Aminu ya jama'a. Qulu amin. On a dit qu'Allah nous garde sous sa protection, vous garde tous sous sa protection. Et qu'Allah accorde la santé à toutes les personnes qui sont malades. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar. 'Alima an lan tuhsuhu. فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ استغفر الله واتوب إليه. Dans ces derniers versets, enfin je sais pas si on va compléter Al-Muzammil ce soir, mais au cas où, dans ces derniers versets, Allah Rabbul Izza montre sa clémence par rapport aux personnes qui ne pouvaient pas passer une grande partie de la nuit en qiyam ou layl, en tahajjud, en ibadah. Pourquoi cette conclusion? Parce qu'au début de la sourate Al-Muzzammil, une grande importance était accordée au qiyam ou layl. Et on a vu que ce qui est impressionnant, c'est quand l'écran, je le répète à chaque fois, mais pour que moi-même je prenne conscience et que le yaqin pénètre dans nos cœurs. Dans une période où la pratique de l'islam est impossible, à Mecca, où la vie des croyants qui affichent leur religion, leur vie est en danger, le refuge du mu'min se trouve dans la prière de la nuit. Ce n'est pas en rassemblant des forces, ce n'est pas en allant chercher peut-être des alliés du côté des Romains ou des Perses pour faire tomber les Mécois. Wala shay, qiyamul layl. Et cela avant même que les prières obligatoires avaient été légiférées, c'est-à-dire avant le voyage, avant le Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne. La première prière, la première salah que les musulmans accomplissaient au début de l'islam, c'était tahajjud, qiyamul layl. Et il leur était demandé de passer une grande partie de la nuit, le maximum possible, en qiyam. Et c'est ce que le prophète alayhi salat wa salam faisait. Et les premiers croyants faisaient. Ça veut dire que le lien avec Allah Azza wa Jal, c'est un lien secret, c'est un lien intime, c'est un lien qui se base sur la sincérité. Qui te voit qiyamul layl? qui te voit tahajjud? Personne. C'est ce qu'Allah veut. C'est ce qu'Allah attend de toi. Le tahajjud nécessite un mujahada, oui ou non? Un effort, un sacrifice. Celui qui se lève à 3h, 4h du matin, ce n'est pas comme celui qui se lève juste 5h20 pour venir au Fajr ici. Demain, pas 5h30, non? Ou bête ce matin. Khair. Celui qui se lève à 3h30, ce n'est pas comme celui qui se réveille à 5h30. Et ce n'est pas comme celui qui se réveille, Wallah Moussa'an, à 7h30, juste avant d'aller à son travail. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, depuis le départ, voulait des croyants, ikhlas, mujahada, sincérité et effort, dévotion. Et c'est de cette façon que les mu'mines ont construit leur foi, leur iman. Donc là, on n'a pas lu la traduction, il me semble, de ces versets. Ton Seigneur sait, certes que tu, Mohammed, te tiens debout moins de 2/3 de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers. De même qu'une partie de ceux qui sont avec toi, c'est-à-dire les croyants. Les premiers sahabas, Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec, je ne sais pas si ma traduction est correcte, hein, avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Je pense qu'on va s'arrêter à la pour ce soir. Qu'est-ce qui revient? À chaque fois, il y a deux notions. Il y a le fait qu'Allah a allégé ce qui était demandé aux croyants en termes de prière de la nuit. Et il y a le fait que Allah Azza wa Jal rappelle à chaque fois qu'il sait, qu'il connaît, que certains ne pourront pas, que certains ont des obligations, certains sont en voyage. En voyage pour quoi? Rizq, talabur rizq. En voyage pour leur travail, pour leur commerce. Et c'est cité dans la sourate Al-Muzzammil qu'il y a des gens qui voyagent pour leur commerce. En aucun cas, Allah Rabbul Izzah n'a condamné ceux qui sont en voyage, en déplacement pour leur travail et qui ne peuvent donc pas passer une grande partie de la nuit en qiyam. C'est une religion de wasatiyya, de juste milieu. Allah rappelle qu'il y a des gens qui seront peut-être malades et Allah connaît leur situation. Tout ça, ce sont des messages qui sont rassurants. Vous ne trouvez pas? Allah connaît ton ahwal, Allah connaît ta situation, Allah connaît ta faiblesse, Allah connaît ta maladie. Comment est-ce qu'Allah connaît ta maladie? Qui c'est qui donne la maladie? C'est Allah. Et quand Allah donne un problème de santé à quelqu'un, Allah Rabbul Izzah l'éprouve par cette maladie, le récompense, le rétribue, l'élève par cette maladie. Et du coup, ce qui lui est demandé en termes d'effort, c'est beaucoup moins important que ce qui est demandé à la personne qui est en parfaite santé. C'est clair? Voilà donc quelques explications, on va dire en gros par rapport à la traduction. Et nous rejoignons Ibn Kathir, rahimahullah, pour son tafsir. Et subhanallah, Ibn Kathir, là, dans sa tombe, il obtient des récompenses. Oui ou non? Un cheikh, le tafsir qu'il écrit, subhanallah, il y a combien de siècles, chaque fois qu'il y a des gens qui vont lire, qui vont l'étudier, qui vont l'enseigner, qui vont l'écouter et qui vont donc voir leur compréhension et leur relation avec le Coran s'améliorer et donc mieux comprendre et mieux pratiquer, les récompenses vont pour ces grands ulama, ces grands chouyours, ces piliers de la connaissance religieuse qui ont tout donné à la Umma. Entre autres, Ibn Kathir, rahimahullah. Donc, je retrouve, on a tourné pas mal de pages là. Voilà, je retrouve le verset. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu. Ibn Kathir, rahimahullah. Rappelle donc quand Allah Azza wa Jal dit au prophète alayhi salat wa salam qu'il sait parfaitement que certains ne pourront pas. Yaqul ay min ghayri qasdin minkum li'annahu shaqqun alaykum. Et que certains ne pourront pas passer toute la nuit en ibada. Allah le sait et Allah sait pertinemment que ce n'est pas volontaire, ce n'est pas par rafla, ce n'est pas par insouciance, par paresse ou autre chose, mais tout simplement parce que huwa shaqqun alaykum, parce que c'est très lourd, peut-être pour certains. Et Allah Azza wa Jal montre sa clémence. Allah connaît la machine humaine, comment Allah a créé l'être humain et que l'homme a besoin de sommeil et qu'Allah Azza wa Jal est clément avec celui qui est fatigué et qui ne peut pas faire énormément. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de clémence par rapport à Ibadah? Je pense à ces personnes qui ont eu l'occasion de nous poser des questions lors de la dernière décade des différents Ramadan, en disant qu'on entend bien les vertus concernant le fait de passer la nuit en ibadah. Sauf que moi, je travaille sur un chantier. Je conduis des engins, des gros appareils. C'est quoi qu'un gros engin? Un caterpillar, je pense, non? Caterpillar, je ne sais pas trop, une bétonneuse ou des trucs, une grue, des trucs qui sont quand même sensibles et importants. Où il y a besoin de vigilance. On ne peut pas déplacer un poids avec une grue et somnoler. C'est problématique, ça. D'accord? Donc, il dit que je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de passer toute la nuit, mais je me réveille 45 minutes avant le souhour et je fais tout ce que je peux. Ben, subhanallah, cette personne et d'autres qui disent qu'eux, ils sont maçons, ils portent des sacs de ciment, ainsi de suite. Quel mujahada, subhanallah. Et vous pensez une seconde qu'Allah, Rabbul Izzah, ne regarde pas le profil de chacun. Bien sûr qu'Allah regarde le profil de chacun. Entre celui qui, miskin, malgré lui, n'a pas de travail, il aurait bien aimé, mais voilà. Et du coup, lui, quand il a fini la nuit en prière, il a fait fajr à la masjid, il a fait son shuruq, il a lu son Coran, il peut se reposer jusqu'à Zohr. C'est pas comparable, cette situation de celui qui n'a pas de travail et la personne qui travaille, subhanallah, d'une façon acharnée, avec difficulté. Ça peut être, j'ai parlé des ouvriers, hein, ça peut être un médecin, un dentiste, un chirurgien, des personnes qui ont besoin d'une certaine concentration et qui ne peuvent pas se rater parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'eux. D'accord? Allah Rabbul Izzah connaît tout ça. Ne vous inquiétez pas. Allah connaît la situation de chaque individu, de chaque personne. De même, celui qui a des problèmes avec sa famille, celui qui a des problèmes de ses finances, celui qui a des problèmes de santé personnelle et ainsi de suite, Allah connaît la situation de chacun. Allah rétribue chacun en fonction de sa situation. Allah n'attend pas un quota. Allah n'attend pas une quantité de bonnes actions, de la sincérité et le maximum d'efforts. Il est possible que cet ouvrier-là, 40 minutes, pour lui, c'est de l'or, ça. Et ce qu'il obtient, c'est peut-être plus que celui qui a passé 3 ou 4 heures. Allah est seul juge. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'on ne doit pas avoir de complexe, d'infériorité par rapport à d'autres. Allah est arham rahimin. Mais si on arrive à cette pensée, on se dit que oui, mais j'aurais aimé faire mieux, mais je ne peux pas, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une preuve que vous êtes sincère et que vous voulez plaire à Allah Azza wa Jal, mais que vous sentez vos chaînes et vos limites qui vous retiennent. À partir du moment où le croyant se fait du souci pour sa religion, pour sa progression spirituelle, il essaie de construire un cheminement vers Allah, il cherche les moyens, il cherche les bonnes personnes, il cherche les actions à accomplir, et ainsi de suite, c'est khayr wa ni'ma. Même s'il n'aura jamais le niveau d'Abu Bakr al-Siddiq, de Omar, de Uthman, de Ali, radiyallahu anhum ajma'in, mais là-dedans, ça doit être rempli de sincérité et avoir le cœur rempli de motivation, rahba, la recherche de l'agrément divin. C'est ce qui doit habiter nos cœurs, quel que soit notre niveau. Il ne faut pas qu'une personne un jour arrive à un niveau spirituel tel qu'il se croit au summum. Là, wallah, jamais de la vie. Quand tu penses que tu es au summum, regarde, va juste lire le récit des compagnons et tu comprendras que c'est des petits joueurs encore. Nous sommes encore des petits joueurs. Et même, il n'y a même pas à comparer. Donc, on sait pertinemment qu'Allah Azza wa Jal est Rahman, Rahim, clément, et que même dans les efforts qui sont demandés, Allah Azza wa Jal est Rahman et Rahim, et Allah est capable d'accepter très peu et de rétribuer énormément. Et ça, on avait vu dans un des noms d'Allah, qui se souvient ? Ash-Shakur, celui qui accepte un petit peu de bonne action, sincère, et qui est capable de rétribuer énormément. Ça sent très bon, hein ? À travers le masque, je sens. Si j'enlève le masque, je vous dis tout de suite qu'est-ce qu'ils sont en train de faire cuire. Mais là, avec le masque, mais je suis capable de vous dire. Mais ce n'est pas le but. Il faut qu'on termine sur la Tel Muzzammil. C'est la pâtisserie, ça, non? Non? C'est un restaurant? Grillade. D'accord. Bon, on ira manger après. Allez, on continue. On reste concentré sur le Qiyamul Layl. هذا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. دوك الله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه. Allah sait que vous ne pourrez jamais donc passer la nuit intégralement en prière. Et là, on a le verset clé faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Et le mot faqra'u, Ibn Kathir dit qumu min al-layl ma tayassara. Faqra'u, ça veut dire quoi? Qara'a.
Réciter, lire.
On peut penser faqra'u ma tayassara. En plus, c'est écrit min al-Qur'an. Une traduction serait été lisez ce qui vous est possible du Qur'an. Mais non. Ibn Kathir dit, je retrouve, عَبَّرَ عَنِ الصَّلَاتِ بِالْقِرَاءَ. Le mot qira'a, le mot lecture, a été utilisé, وَمَعْنَاهُ الصَّلَاةِ, dans le sens de salat, أي صَلُّ مَا تَيَسَّرْ. Priez ce que vous pouvez faire. Priez autant que vous pouvez. Et là, on comprend, c'est l'unanimité de tous les tafsirs, que la seule compréhension de la langue arabe ne fait pas de nous, ne fait pas de vous, ne fait de personne un mufassir. Il y a des spécificités à l'arabe du Coran qui nécessitent beaucoup plus d'expérience, de connaissance de la langue, mais également de connaissance du tafsir et des hadiths. Donc, faqra'u ma tayassara minhu min al-Qur'an, priez ce qui vous est possible de prier en lisant donc le Coran. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, ça a été traduit. Récitez donc, je retrouve, d'ailleurs la traduction n'est pas correcte, la traduction, j'ai pris ça sur internet, c'est du copier-coller, récitez donc ce qui vous est possible du Coran, c'était traduit littéralement, mais les mufassirin disent que réciter c'est dans le sens de prier. Allez, peut-être qu'on peut dire réciter dans la prière, mais c'est le sens de prière qui est prédominant, parce qu'on parle de prière de la nuit, que certains ne pourront pas passer toute la nuit en prière. Donc, priez ce que vous pouvez. Ce n'est pas lisez ce que vous pouvez, donc c'est prier ce que vous pouvez en lisant le Coran. Et on verra l'avis de certains pieux prédécesseurs qui, pour eux, le hafid de le Coran se doit de passer chaque nuit, une partie de chaque nuit en qiyam. C'est le haqq, le droit du Coran qu'il a dans son cœur. Et donc ça, ça rejoint un peu les deux, entre la prière et la lecture du Coran dans la prière. Alors, contrairement à nos habitudes, nous allons voir un mas'ala. On n'a jamais parlé de fiqh, vous avez remarqué? On n'a jamais parlé de fiqh pour des raisons. Il y a des gens qui sont faqih, qui ont plus de compétences, des muftis. Ben, allez voir les muftis. Maintenant, si nous, on veut travailler du côté de tafsir, on aime travailler le tafsir. Mais là, il y a ce qu'on appelle un latifa. Une latifa, c'est quelque chose qui est, on va dire, un petit peu croustillant. Un peu croustillant. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est on appelle ça un namoudaj fi l'ikhtilaf bain al-fuqaha. Un exemple, un échantillon, voilà, je cherchais le terme. Un échantillon de divergence d'opinion entre a'imma sur un mas'ala. Parfois, c'est bien de savoir pourquoi est-ce qu'Imam Abu Hanifa dit telle chose, Imam Shafi'i dit autre chose, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, pourquoi est-ce qu'il y a des avis qui divergent? Est-ce qu'il y en a qui connaissent mieux que d'autres? Non. C'est la disponibilité des textes selon les époques différentes et le contexte géographique aussi. Ils n'habitaient pas tous à Makkah et Madina, il ne faut pas croire. Il y en a qui étaient en Irak, il y en a qui étaient dans la péninsule arabe et d'autres ailleurs. Et les époques n'étaient pas les mêmes. Entre ceux qui étaient au début de la propagation des hadiths et que donc l'expansion des hadiths n'avait pas vraiment commencé, et ceux qui sont arrivés bien après, et qui ont pu récupérer le travail des a'immas avant eux, mais avec sincérité, il n'y avait pas de plagiat, d'exclusivité, la hawla, la quote, les ulama, les a'immas, pour eux, c'était partager la connaissance, il n'y avait pas de droit d'auteur ou autre chose, d'accord? Et donc ceux qui sont arrivés plus tard, et qui ont récolté le travail qui avait été fait en amont, plus les autres hadiths qu'eux, ils ont eu, que les anciens n'avaient pas eu, tout ça fait que, entre ce qu'on appelle des écoles, on appelle ça des écoles de jurisprudence, il y a des divergence d'opinion, mais nous allons voir comment est-ce qu'on s'en sort et comment est-ce que le fait d'avoir des opinions divergentes ne fait pas de nous des gens qui doivent avoir des parcours différents et que personne n'a le droit de considérer l'autre comme égaré ou comme celui qui n'a pas le bon mas'ala aucunement. Alors, Abu Hanifa, rahimahullah, إمام الشافعي ابن كثير كي دي وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة et les disciples de أبي حنيفة d'Abu Hanifa رحمه الله ont extrait du verset فقرأوا ما تيسر من القرآن على أنه لا يتعين قراءة alors on va dire en français que la sourate Al-Fatiha n'est pas obligatoire dans la salat. La Hanaf, ils déduisent du verset فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ que le verset qu'on a lu, que la lecture d'Al-Fatiha n'est pas impératif pour qu'une raka'at, une unité de prière soit validée. بَلْ لَوْ قَرَأَ بِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَلَوْ بِآيَةٍ أَجْزَأَهُ أَجْزَأَ, ça veut dire c'est validé. Que si par exemple une personne fait sa salat avec des versets du Coran, même s'il n'y a pas forcément Al-Fatiha, la salat est acceptée. C'est le qawl al-madhab. Qawl al-madhab, c'est que la salat al-Fatiha n'est pas impératif pour que la salat soit validée. Et hada. Et également, lorsqu'il y avait un... Donc, premièrement, ils prennent un dalil du Coran. On est d'accord ? Ils vont prendre un dalil des ahadiths. Vous connaissez tous l'histoire de cette personne qui est en train de prier et qu'il priait trop vite. Le prophète l'a arrêté, il a dit « Recommence ta prière, tu n'as pas prié. » Mais tu es d'accord ? Il a recommencé. Il prie, mais il prie vite. Il enchaîne les génuflexions, se relève et tout. Il n'observe pas de pause. Le prophète a dit « C'est pas bon, recommence. » Deux fois. Au bout de trois fois, il a dit « Ya Rasulallah, c'est comme ça que je prie. Je ne sais pas faire d'une autre façon. » Le prophète l'a expliqué que quand tu te positionnes, laisse les os retrouver leur place. Le hadith est connu. Et à la fin, le prophète lui a dit « Thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an » et lis ce qui t'est possible du Qur'an. Donc, deux dalils. Lis ce qui t'est accessible du Qur'an. Donc, عند الأحناف, la Fatiha n'est pas obligatoire puisque le Prophète a dit de lire ce que tu peux. Donc, ça peut être قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ إِنَّا عَطَيْنَا لَكَ الْكَوْثَرَ ou petit ou grande sourate. Donc, ça, c'est قول المذهب. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que Cheikh Imam Abu Hanifa s'est appuyé sur Qur'an wa Sunnah. Ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé. Comme parfois des gens disent qu'Abu Hanifa c'était beaucoup de qiyas, d'analogies. Là, on a istidlal bil Qur'an wa sunnah. Et istidlal sahih, c'est une méthodologie qui est parfaite. Il prend un verset, il l'explique, il en extrait. On appelle ça al-istinbat. Il extrait la règle, il voit un hadith qui rejoint le verset, il les fusionne et il a le mas'ala qui est prêt. C'est clair ? C'est une méthodologie qui était celle de tous les a'immas. Sauf que ceux qui sont venus après lui, parce que Imam Abu Hanifa était avant les autres, avant les trois autres, quand on parle des trois autres, il y en a eu d'autres, des A'imma, mais les quatre plus importants, c'est ceux que nous connaissons et que nous avons cités. وَقَدْ أَجَابَهُمُ الْجُمْهُرُ Ça veut dire quoi, Jumhur? La majorité des savants. C'est-à-dire le consensus. Non, pas ça, le consensus, c'est Ijma'. Les autres, c'est-à-dire la majorité, quand on dit la majorité, ça ne veut pas dire qu'il y a l'opposition de l'autre côté. Non, pas comme ça. Les autres savants, ils ont une approche différente de cette mas'ala et ils se basent sur... Alors là, ils ont les hadiths clés. Les hadiths clés, c'est parfois le hadith qui était nécessaire pour bien différencier les choses. Le prophète, alayhi salat, un hadith de Sahihain, de Bukhari, Muslim, de Kafir, a dit « La salata liman yaqra bi fatihat al-kitab. La salata... » Les man lam yaqra. Aucune prière n'est validée pour celui qui ne lit pas Al-Fatiha. Et dans Muslim, Hadith Abu Huraira, Kullu salatin la yaqra fiha bi ummi al-Qur'an, fahiya khidaj, trois fois. Ay ghayr tamam. N'importe quelle prière dans laquelle Al-Fatiha n'a pas été lue, cette prière, elle n'est pas valable. Elle n'est pas complète, elle n'est pas comme il le faut. Et. Un troisième hadith, puis on va s'arrêter là, on ne sait pas quoi de fiqh non plus, de Abu Huraira, marfou'an, la tujzi, salatu man lam yaqra bi umm al-Qur'an, n'est pas validé, n'est pas accepté une salat dans laquelle umm al-Qur'an, c'est-à-dire la Fatiha, n'a pas été lue. Donc voilà l'avis de Shafi'i, d'Imam Malik et d'Imam Ahmad. C'est clair, ces hadiths sont clairs et limpides, authentiques. Le hadith d'Imam Abu Hanifa est clair et limpide et authentique. et il se base sur un verset. C'est-à-dire que celui qui a suivi Abu Hanifa, il est dans le droit chemin, il est dans le haq. Parce que Cheikh, l'imam s'appuie sur Qur'an et Sunna. Celui qui suit Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, il est dans le haq parce qu'il ne fait que suivre. Fas'alou ahla zikri in kuntum la ta'lamoun. Demandez les gens du zikr. Et là aussi, traduction zikr, c'est pas qu'ils font zikar. Ahlu zikr ay ahlul ilmi. Le terme zikr de le Coran est utilisé pour, parfois pour le ilm. Demandez à ceux qui ont la science, si vous, vous n'en avez pas. Sens approximatif du verset. Donc, nous suivons des personnes qui ont plus de compétences. Et l'avis d'Abu Hanifa est basé sur des preuves solides, tout comme l'avis des autres a'imma. Maintenant, là, on a besoin d'un peu plus de rahma entre nous, comme Allah a de la clémence envers nous dans nos manquements. Personne n'est en droit de pointer l'autre au djihad, ça ne les connaît pas, lui il pratique n'importe comment, lui sa salat n'est pas correct, ainsi de là. À partir du moment où la personne il fait son ijtihad, il fait ses efforts pour comprendre et pour bien pratiquer, Allah Azza wa Jal accepte. Donc ça c'était une petite parenthèse, on n'a pas trop l'habitude, mais c'est bien quand même de voir. Et jamais les a'imma ne se sont, même s'ils n'ont pas habité les mêmes époques, hein, mais il n'y a jamais eu d'opposition dans le genre où il y a un qui critique l'autre et qui essaie d'humilier l'autre, na'oudh billah, en disant que cet avis ou cette façon de déduire les mas'alas est totalement erronée. Là, wallah, il y avait une ihtiram, il y avait un respect mutuel qui nous manque cruellement à notre époque. Et n'oublions jamais qu'au-dessus de nous, il y a Allah qui est Arhamur Rahimin. Sois sincère, fais des efforts, recherche le haq, recherche la connaissance auprès des personnes de confiance et ta pratique, elle sera validée par Allah. Azza wa jal hadha. Alima an sayakounu minkum marda. Les muhaddithin, les mufassirin, rahimahumullah, rappellent que cette religion, l'islam, est din rahmah, une religion de clémence. وما جعل عليكم في الدين من حرج. Il n'y a pas de il y a rien de complexe dans la religion. Il n'y a rien de difficile dans la religion. Le din, l'islam, c'est une religion de facilité. Et Allah Azza wa Jal a facilité les pratiques. C'est Allah qui légifère, qui demande aux croyants d'accomplir telle telle action, mais c'est Allah également qui envoie la maladie. Et celui qui envoie la maladie et donc moins exigeant avec les personnes qui sont malades concernant les devoirs et les obligations. Ainsi, prenez n'importe quelle pratique de la religion. Si une personne a des problèmes de santé, cette pratique est automatiquement allégée. Regardez le wudu. Une personne est malade ou a une plaie ou a une cicatrice, ainsi de suite. Le médecin dit, il ne faut pas mouiller. Khalas, il fait quoi? Il passe la main. Al-mas'hu. Hein, qu'on appelle ici Massa. Al-Mas'hu, c'est passer une main mouillée sur la plaie, ainsi de suite. Alors, on est beaucoup dans le fait que ce soit, mashallah. Également pour la prière. Une personne ne peut pas prier debout, comme une personne qui est âgée là, sur la chaise, le jeune homme. Une personne ne peut pas prier debout, et ainsi de suite. Il prie assis, d'accord? Et après, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais il y avait une personne, un proche qui était en soins intensifs pendant la période de Covid. Et ensuite, quand, alhamdoulilah, il est revenu en chambre ordinaire, son souci, c'était comment est-ce que je peux prier. Et là, on lui a expliqué les règles, les masa'il. Et puis, il a dit que oui, mais je ne peux pas prier parce que j'ai une sonde par rapport à la vessie, akramakumullah, avec l'urine, ainsi de suite, que je suis en état de najasa, d'impureté. Et là, on a donné les masa'ala concernant, c'est une impureté qui est envahissante, pour laquelle on n'a pas le choix, ainsi de suite. Et comment est-ce que les savants donnent Jawaz, de prier, de quelle façon, même en étant allongé, ainsi de suite. Et cette personne témoigne que quand elle a pu faire sa salat, c'était son plus grand bonheur. Donc, pour la prière également, il y a, mashallah, des facilités. Le jeûne, il n'y a pas besoin d'expliquer. Celui qui est malade, qui est diabétique, quel que soit le problème de santé, ou une femme qui attend un bébé, ou une femme qui allait, ainsi de suite, il y a des facilités. Le hajj, personne n'est malade, il n'y a pas de hajj pour elle. D'accord? Et si quelqu'un a des difficultés, il peut se faire remplacer pour le Ram al-Jamarat, ainsi de suite. Qu'Allah nous amène, Inch'Allah, le prochain Hajj. La Hajj Sawiyan, Inch'Allah. Et donc, regardez, on parle des piliers, non? Là, on parle des piliers. Il y a ceux qui. Comment qu'on parle de piliers? C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, ça ne tient pas à la religion. Mais même ce qui est impératif et indiscutable, C'est obligatoire. Si quelqu'un a taklif, une difficulté, Allah Rabbul Izza a rendu les choses faciles. On va s'arrêter à là. On voit comment est-ce qu'Allah agit avec nous concernant nos devoirs, nos obligations, nos engagements. Quelle est la clémence d'Allah ? Ce que nous devons retenir, c'est qu'Allah est clément, miséricordieux. Et du coup, les savants disent, là on passe à une autre science, et à l'asma en sifat. Les savants disent que quand nous voyons comment est-ce qu'Allah est clément vers nous, à nous maintenant d'être clément entre nous. Quand quelqu'un vous doit quelque chose, quand quelqu'un vous a promis quelque chose, quand vous avez quelqu'un qui, vous êtes chef d'entreprise et vous avez donné des missions précises à des gens, ils doivent être là, telle heure, faire telle chose, bien sûr, sans tomber dans la négligence totale et ainsi de suite, l'anarchie, mais de la clémence. Si quelqu'un n'a pas pu le faire, si quelqu'un a eu une difficulté, qui était malade et tout, fait preuve de clémence parce qu'Allah est clément avec nous dans tout ce qu'il nous a demandé. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. Et la suite, bi'idhnillah, vendredi prochain. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.